Bienvenue sur la collection Paroles de vie, réalisée par l'organisation Message de vie. Message de vie est une organisation chrétienne regroupant en son sein le ministère Message de vie et l'église Vase d'honneur. Notre vision est d'apporter le réveil en annonçant l'évangile au peuple non atteint, tout en amenant le peuple dans une autre dimension de l'adoration, la louange prophétique. Pour édifier le corps de Christ, l'église Vase d'honneur a décidé de partager avec vous ce message donné par le premier responsable de l'organisation Message de vie et de l'église Vase d'honneur, le pasteur Mohamed Sanogo.
Je que nous sommes là-dessus. Je n'ai pas prévu prendre plus de temps sur cet enseignement, mais voyant ce que le Seigneur produit et puis quelquefois les incompréhensions que manifeste le cœur de certaines personnes, j'ai juste bon de continuer comme je l'ai déjà annoncé le dimanche dernier. Puissons-nous être disposés afin de recevoir la parole du Seigneur. Je sais un thème à mon message depuis le début. L'a-t-il appelé sur les traces d'Abraham, de Terak à Abraham, Terak, Lot, ainsi de suite. Et puis, je prends le thème que m'a donné Guy Michel. Quitter pour posséder. Amen. Alléluia. Voilà ce dont nous avons parlé depuis le début. Nous sommes allés sur une explication très simple de la parole de Dieu. La Bible nous dit que sur la terre, il y a un héritage que Dieu manifeste. Premièrement, avant même de parler de l'héritage sur la terre, Dieu nous parle de bénédiction que nous avons lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il dit que nous sommes sauvés, que après la mort, nous sommes sauvés, nous allons hériter le royaume de Dieu. Dans d'autres passages de la parole de Dieu dont nous lirons un tout à l'heure, le Seigneur aussi dit que, à certaines conditions, nous hériterons sur la terre les choses que nous avons perdues au centuple. Amen. Dieu le dit clairement que Dieu promet et prévoit la bénédiction sur la terre pour un certain nombre d'enfants de Dieu qui ont eu un comportement donné. Autrement dit, les paroles de promesses qui sont faites ne seront pas manifestées dans la vie de tous les enfants de Dieu, sauf, bien sûr, pour ceux qui ont mis ces conditions-là en pratique. Nous lisons donc le premier passage qui parle de ses faveurs et de ses grâces dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. C'était le passage de base de notre enseignement. Je fais l'effort de résumer rapidement pour que nous allions plus en profondeur de ce que nous avons dit dernièrement. Si je fais le rappel, c'est parce que c'est vrai que beaucoup ont compris. Certains m'ont dit le message est fort, pasteur. Et puis, certains aussi n'ont pas très bien compris. Paul dit, je ne me lasse pas de vous rappeler ces choses parce que pour vous cela est salutaire. Il a dit au verset 29 de Marc chapitre 10, je commence même au verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Cette parole est claire. Vous la retrouvez en Matthieu chapitre 19 verset 27 à 30, en Luc chapitre 18 verset 28 aussi à 30. Le Seigneur dit qu'il n'y a personne sur la terre qui ayant abandonné, ayant quitté les choses qu'il possédait, les ayant quittées à cause, pas pour n'importe quelle raison, à cause à cause du Seigneur et à cause de la proclamation de la bonne nouvelle, c'est-à-dire à cause de l'appel de son Dieu. Il n'y a personne qui ayant quitté les choses qui avaient de la valeur pour lui. Il n'y a personne qui les ayant abandonnées à cause du royaume n'obtienne sur la terre-ci, dans ce siècle-ci, les choses qu'il a abandonnées au centuple, multipliées par 100 avec des persécutions. Amen. Et après cela, il obtient encore la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu nous dit effectivement qu'il est possible de posséder ici-bas des biens, des maisons au centuple, des biens au centuple. Il est possible d'en avoir à condition qu'initialement nous ayons abandonné les premières choses que nous possédons en ce qui concerne père, mère, enfant, en fait tout ce qui nous est cher. Donc, pour entrer en possession des promesses sur la terre, je ne parle pas d'abord d'entrer au ciel. Amen. Car entrer au ciel vous est donné gratuitement dès l'instant où vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia.
puissiez-vous dans la suite des temps marcher conformément à sa parole. Parce que ce que le Seigneur demande d'abandonner ici, il n'est pas en train de citer les choses qui sont péchées. Car il est clair et manifeste que si vous conservez l'impudicité, vous n'hériterez pas le royaume des cieux, selon ce qu'il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Si vous conservez en fait les choses que nous appelons iniquité, il est manifeste que vous ne pourrez hériter du royaume de Dieu. Mais ce dont il est cité ici, ce dont il est parlé ici, ce dont il est question ici, est différent du péché. Le Seigneur ne dit pas, il n'y a personne qui a abandonné à cause du royaume l'impudicité, n'obtient son tulpe sans femme, non. Il n'y a personne qui, à cause du royaume, a abandonné la vie d'adultère, n'obtienne, je ne sais pas, non, ce n'est pas laisser les questions. Ces choses-là sont déjà abandonnées depuis la conversion. Amen. Depuis l'instant où on a donné sa vie à Jésus. Ce dont il est question ici, c'est pour le converti, des efforts supplémentaires qu'il aura à fournir. Un acte d'abandonner certaines choses qui va immédiatement produire dans sa vie, ici-bas, une récolte. Encore, le Seigneur est en train de dire, parce que, autrement dit, ce qu'il est en train d'abandonner peut être constitué comme une semence. Il est dit, tu ne peux rien obtenir si tu n'as pas semé. Or, la semence est une perte. La semence se fait lorsque tu vas dans un champ pour faire ta plantation. Tu as des graines que tu perds. Tu sèmes, elles vont mourir dans le sol et porter du fruit en abondance et des graines multipliées. Amen. Le principe qui est énoncé ici, c'est le principe de la semence. Mais la bénédiction de la multiplication est une bénédiction dont Dieu parle souvent depuis le livre de la Genèse. Il pouvait dire, Dieu les bénit en parlant d'Adam et Ève, en leur disant, Dieu les bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez la terre. Amen. Alléluia. Mais cette bénédiction va aussi parallèlement avec celui qui a été la première personne à nous ramener, à commencer le cycle du retour à Dieu, c'est-à-dire notre père dans la foi, Abraham. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 51, il est question de cela. À partir du verset 1, il nous est demandé d'imiter Abraham, de prendre l'exemple d'Abraham, celui qui est le père de la foi. Et la bénédiction d'Abraham dit justement que Dieu va bénir Abraham sur la terre ici d'abord. Il va lui donner beaucoup d'enfants, il va lui donner des terres, il va lui donner toute une nation, et il va lui donner, et Dieu va bénir tout le reste, toutes les autres nations au travers de lui. Amen. Autrement dit, l'influence de la bénédiction d'Abraham ne va pas se référer seulement à lui, Abraham, mais aura une conséquence sur le reste de l'humanité. Et je vous ai dit souvent dans plusieurs prédications que l'appel initial de Dieu pour vous est un appel, qui est non seulement pour vous une bénédiction, mais qui sera aussi pour le reste de l'humanité une bénédiction. Voilà ce que Dieu prévoit. Amen. Si, par exemple, le Seigneur t'appelle à ouvrir une société de vente de dégâts, la volonté de Dieu, même au-delà de cela, c'est qu'un jour, tes jolies bouteilles, tes belles bouteilles de dégâts, avec des versets marqués là-dessus, puissent être vendues dans tous les supermarchés du monde et que les gens prenant ton dégât, en achetant ta bouteille de dégâts, puissent confesser le nom du Seigneur. Ça veut dire que Dieu veut te bénir en abondance. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons à la tête et non à la queue. Deutéronome chapitre 28 parle de la bénédiction. Mais il parle de la bénédiction pour un peuple, c'est-à-dire le peuple juif, qui a effectivement quitté l'Égypte et qui se trouve dans la terre promise. Et ça, eux, il dit, vous serez à la tête et non à la queue. Je multiplierai vos biens, je multiplierai tout ce que vous aurez. Ces gens à qui Dieu donne cette parole ne sont pas dans le désert. Ces gens à qui Dieu donne cette parole ne sont pas encore en Égypte. Pour mieux comprendre donc, vous ne pourrez rentrer dans votre bénédiction que si vous vous n'abandonnez pas certaines choses. Alléluia. Vous ne perdez pas des choses qui ont de la valeur pour vous. Nous en avons longuement parlé la dernière fois et nous avons pris l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a dit de quitter. Effectivement, la parole de Dieu dit que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham et la Bible dit que c'est ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui marchent comme Abraham, qui obtiennent l'héritage d'Abraham. Et la Bible dit que pour nous tous qui avons cru, nous sommes héritiers avec Abraham, le père des croyants. Amen. Alléluia. Mais pour comprendre la bénédiction d'Abraham, il faut bien sûr voir sa vie. N'allez pas regarder à la fin de la vie d'Abraham. Abraham qui prospère, qui a des enfants, qui est béni, qui est énormément riche. Regardez d'abord ce que Dieu lui a dit. Et l'enseignement que nous avons reçu depuis le début, ce que j'ai commencé à dire, c'est que Abraham a eu plusieurs étapes. Et dans les différentes étapes de son évolution, il a eu beaucoup d'hésitations comme nous. Nous sommes tous pareils. Abraham était un homme comme nous, qui avait reçu une parole de Dieu. Mais sa foi et sa confiance en Dieu ont déterminé l'entrée dans ses bénédictions. Ma prière, c'est que tu puisses entrer dans les promesses de Dieu pour toi. Mais pour entrer dans ses promesses, il y a des conditions. Et les conditions, c'est la bénédiction d'Abraham qu'héritent tous les enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons lu donc à la suite Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 où il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Voici la bénédiction pour Abraham. Dans Actes le chapitre 7 à partir du verset 2, le Seigneur rappelle cette bénédiction. Mais contrairement à ici, Dieu nous fait voir que cette bénédiction, du moins la promesse qui a été faite, précède celle de Genèse chapitre 12, verset 1. C'est-à-dire, en Genèse 12, verset 1, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit quelque chose. Il dit, voilà comment je vais te bénir. Mais avant de te bénir comme ça, quitte ta famille. Il dit, quitte ton pays d'abord. Quitte ta patrie. Quitte ta famille, il faut les quitter. Et puis, va là où je vais te montrer. Là, je vais te bénir. Je vais te multiplier. Je vais te donner les nations. Je vais te donner beaucoup de choses. Mais d'abord, il faut quitter. Amen. Lorsqu'on entend ça, on dit, ah ok, c'est la première fois que Dieu a parlé à Abraham, Abraham va faire sa pérégrination. Mais lorsqu'on lit Actes chapitre 7, à partir du verset 2, la Bible dit clairement que la même parole qu'on a dite en Genèse 12:1 a été dite tout au début de la vie d'Abraham. L'histoire d'Abraham, vous la commencez à partir de Genèse le chapitre 11, lisez à partir du verset 30-31. Il est dit que leur père s'appelait Térak. Il a eu plusieurs enfants, Abraham, Haran et puis Nakhor. Haran est vite décédé et Térak va prendre Abraham, la femme d'Abraham, et puis Lot, fils de Haran, pour aller à Canaan, c'est-à-dire dans la terre promise. Mais ils vont s'arrêter dans une autre ville qui s'appelle Charan. Et là, la Bible dit qu'ils vont y habiter jusqu'à la mort de Térak. Là, on finit Genèse chapitre 11. Et maintenant, le chapitre 12 commence en disant, donc après la mort de Térak, Dieu s'adresse encore à Abraham et lui dit, va. Lorsqu'on lit Actes des Apôtres chapitre 7 à partir du verset 2, il nous dit que quand Abraham était encore dans sa première patrie, qui est la Mésopotamie, ou la Chaldée, qui est l'actuel Irak, Dieu s'était déjà adressé à lui en lui disant, quitte déjà ta famille, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte toutes ces choses, et va dans le pays que je te montrerai. Donc, la première marche d'Abraham avec son père pour aller à Charan avait été produite par une révélation de Dieu. Abraham avait donc commencé à obéir. Mais Dieu lui avait dit de quitter sa famille, ce qu'Abraham n'a pas fait. Il a quitté le pays, mais il n'a pas quitté sa patrie. Amen. Et le fait qu'il n'ait pas obéi totalement à Dieu a fait qu'il, de manière spirituelle, il n'avait pas la force pour entrer dans la promesse. Il s'est donc bloqué à Charan à cause de Térak. Amen. Dieu l'a dit de quitter sa famille et puis il a gardé Térak et puis Lot, ce qu'il ne devait pas faire. Et cela l'a bloqué à Charan. Et nous avons expliqué en disant que beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté le pays, leur pays d'origine. Notre pays d'origine, c'est le monde. Quand on dit quitte ton pays, c'est ce que vous faites en vous donnant à Jésus. Amen. Nous quittons la nation de péché, nous abandonnons l'impudicité, le mensonge, la tricherie. Nous quittons le pays. Quitter le pays, on l'a fait. C'est pourquoi le Seigneur peut dire, vous êtes une nation sainte. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes étrangers sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu ici. Voilà pourquoi le Seigneur dit cela. Parce que nous avons, lorsqu'on a accepté Christ, on a quitté notre pays. C'est une très bonne chose. Malheureusement, beaucoup quittent le pays sans quitter la patrie. Amen. Et cette partie que beaucoup n'ont pas compris. Sans quitter la patrie. J'ai dit que le mot patrie vient du mot grec qui dit pater. Pater, c'est le mot père. Patrie, c'est le ton pays père. C'est-à-dire, c'est de là d'où tu viens. C'est là où tu es né. Ou bien, quelqu'un peut ne pas être ivoirien, mais décider de faire devenir de prendre la nationalité ivoirienne et décider d'en faire sa patrie. Voilà. Ça peut être par naissance ou par choix. Et nous avons dit que quitter la patrie est importante. Dieu n'a pas dit simplement Abraham, quitte ton pays, mais quitte ta patrie. Abraham n'a pas quitté sa patrie. Et nous avons lié le mot patrie avec le nom, avec le père d'Abraham, qui s'appelle Térak. Parce que je dis patrie vient de père, pater. Nous avons lié ça à Térak. Et on a regardé j'ai fouillé dans le dictionnaire et j'ai vu que le nom Térak veut dire retard. Amen. Tant que Dieu ne peut pas vous parler, comme il a parlé à Abraham quand Abraham était en Mésopotamie, il lui a dit, lève-toi, faut partir. Quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham quitte le pays et puis il a gardé Térak. On lui a dit de laisser sa famille. Tant que Térak était là, Abraham, Dieu n'a pas rappelé une nouvelle révélation à Abraham. Abraham est resté bloqué à Charan et il lui a fait de nombreuses années. Et je vous ai dit, beaucoup parmi vous n'entrent pas dans leurs promesses parce qu'ils sont stationnaires à Charan. Tant que Térak n'est pas mort, ou bien tu ne l'as pas laissé, Dieu ne voulait pas au début tuer Térak. Dieu a dit, laisse Térak et puis va-t'en. Mais Abraham était tellement attaché émotionnellement à Térak qu'il est resté bloqué à Charan de très longues années. Ils nous ont dit, qu'est-ce que peut être le Térak dans la vie d'un enfant de Dieu? Premièrement, on a cité la patrie. J'ai beaucoup insisté sur le thème patrie parce que nous sommes à une période d'actualité où, face aux différents événements que connaît la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens sont devenus très 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 patriotes. Amen. Et moi-même, je l'étais. Alléluia. C'est-à-dire que sans marcher dans la rue, dans mon cœur, t'es un jeune patriote. Voilà, j'étais, je ne suis plus. Il y a un frère qui est venu me dire, il dit, ah, parce que si tu prêches, il y en a qui vont me te lapider quelque part. Il dit, non, pourquoi on va me lapider? C'est l'évangile. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux pour comprendre cette parole. Si vous êtes né de nouveau, il faut que vous quittez la patrie, premièrement. Vous ne devez plus être, écoutez-moi bien, n'allez pas dire que Pasteur Sanogo est contre le gouvernement en place. Je n'ai pas dit ça. On dit, voilà, on a vu Pasteur Sanogo, on vous a dit, c'est un rebelle. C'est un rebelle, c'est pas ce que j'ai dit, mais je prêche la vérité du royaume. Alléluia. Voilà, la Bible dit, quittez la patrie. Le patriotisme se définit comme un sentiment, c'est un sentiment le patriotisme, d'attachement à la communauté nationale à laquelle on appartient par naissance ou par choix. Amen. C'est un sentiment, c'est un sentiment. Donc quitter la patrie, c'est briser ce sentiment d'attachement et se sentir plutôt rattaché à la patrie du ciel, de laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes dès que nous avons connu la nouvelle naissance. Amen. Et j'ai dit que ce sentiment d'attachement à la patrie, par exemple la Côte d'Ivoire, ou une nation, peut-être tu es béninois, congolais ou autre, cet attachement-là, quelle que soit cette nation, cette patrie, doit être brisé. Sans quoi il te sera impossible de jouer pleinement ton rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu dans la nation où tu te trouves. Il est manifeste que si Dieu nous a laissé en Côte d'Ivoire, nous avons un rôle à jouer. On ne peut pas laisser la guerre se passer comme ça. Quel est le plan de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire? L'enfant de Dieu, celui qui représente le royaume de Dieu, écoute les choses du ciel, de la patrie d'où il vient, et il comprend ce pourquoi il est dans cette nation, pourquoi la crise est venue pendant qu'il est vivant, et il agit selon Dieu, non pas selon des sentiments émotionnels que manifestent des individus, même si nous pouvons approuver leur combat. Nous ne sommes pas d'ici. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas d'ici. Dis à ton voisin, tu n'es pas d'ici, laisse ça. Il y a quoi? Tu ne sais même pas comment il va nous parler. Amen. Frédéric, faut laisser ça. Il nous faut quitter. Il nous faut quitter pour avoir la vue du ciel. Il nous faut quitter émotionnellement pour sentir ce que Dieu veut faire. Tant que nous sommes rattachés émotionnellement, nous ne pouvons même pas entendre la voix de Dieu. Parce que nous sommes bouleversés par les informations des journaux. Il suffit qu'on entende qu'un bruit, quelqu'un arrive. On dit, il paraît, tu entends la rumeur, ce soir c'est le coup d'état, ce soir c'est le coup d'état. Donc tu appelles les enfants, rentrez vite à la maison, rentrez vite. Il paraît que cette nuit, c'est cette nuit. Frère, ça c'est, tu es trop rattaché. Or, ceux du royaume des cieux écoutent le ciel. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, non, il n'y aura rien de grave jusqu'à telle période. Alors, comme je t'ai envoyé ici pour que tu puisses agir. Prie pour ne pas que ça arrive. Donc, les autres bruits qui ne sont pas les bruits qui doivent t'effrayer, tu es serré parce que le royaume des cieux dit, il n'y a rien. Amen. Toi, tu paniques à cause des journaux. Quitte ta patrie. Alléluia. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes influencés, nous paniquons, nous réagissons de la même façon que les païens. Pourtant, nous disons que nous adorons le roi de gloire, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux de la terre. Mais nous attendons les événements comme eux aussi les attendent. Nous sommes tout aussi curieux de l'actualité comme eux aussi sont curieux de l'actualité. Ce qui les effraie, nous effraie. Ce qui leur fait peur, nous fait peur. Je vous assure que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire n'est pas effrayé par les événements parce qu'il sait que rien ne peut lui arriver. Toi, tu crois quoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Est-ce que tu crois que tu es ambassadeur? Est-ce que tu crois? Parce que tu te rends compte que ta réaction est une preuve que tu ne crois pas. Amen.
Il faut croire, car tout commence par la foi. Amen.
Nous allons parler donc de quitter la patrie. C'est très important. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas soutenir un mouvement. Si notre, le royaume de Dieu, comme l'ambassade des États-Unis peut dire, nous on soutient le président Gbagbo, l'ambassadeur des États-Unis ici décide dès cet instant de relever une injustice qu'il a et puis de soutenir celui qui est en place. Chaque pays travaille par rapport à ses intérêts. Nous travaillons par rapport aux intérêts du royaume. Qu'est-ce qui plaît au royaume? Où Dieu gagne. Alléluia. Où Dieu gagne. Où Dieu gagne là, c'est ce qui nous intéresse. Dans l'Ancien Testament, plusieurs passages le démontrent. Des prophètes, par exemple, qui étaient venus s'adresser, des prophètes, un homme comme le prophète Jérémie, qui aimait son pays, a reçu qu'il devait quitter le pays pour aller rentrer sous la domination des Nébuchadnezzar qui étaient venus faire la guerre. Le roi d'Égypte avait décidé de venir les protéger. Ils ont dit non, ne partons pas. Dieu est avec nous. Nous allons avoir la victoire. Ils ont donné des encouragements au peuple. Jérémie s'est levé, il a dit arrêtez de donner du faux, d'un faux espoir aux gens. Voilà ce que Dieu a décidé. Les gens l'ont frappé. Parce qu'il n'est pas patriote. Ce n'est pas une affaire d'être patriote, qu'est-ce que Dieu dit? Mais ces mêmes gens-là ont annoncé après un moment donné que Dieu allait frapper la Babylone. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu avait dit. Ils ont su qu'ils allaient faire 70 ans. Ils ont essayé d'intercéder pour ne pas que la chose arrive ainsi. Mais Dieu en a décidé autrement. Ils ont pu se préparer en conséquence. C'était tout. Un homme comme Daniel, connaissant les prophéties, ça c'est qu'il fallait attendre 70 ans. Par rapport à ce que son royaume a dit, telle est sa réaction. Quand 70 ans arrivaient, il a su qu'il devait prier pour qu'Israël retourne dans la terre promise. Il a agi. Mais quand il n'était pas là-bas, il n'était pas auprès de Nébuchadnezzar pour faire des coups bas. Parce que Nébuchadnezzar attaque sa patrie. Il dit, il faut que je détruise Nébuchadnezzar. Il est mauvais. C'est lui qui a détruit le temple de Jérusalem. Moi, je suis un patriote. J'aime Israël. Daniel a compris que l'intérêt du royaume, parce qu'Israël avait tellement péché, était qu'Israël paie un moment. Il a compris que c'est l'intérêt du royaume. Donc, il a travaillé par rapport aux intérêts du ciel, du royaume duquel il vient. Et le royaume disait, tais-toi, attends, je vais prendre 70 ans pour épurer leur cœur, pour changer leur mentalité. Il a composé avec Dieu. Car Dieu veut que les gens soient sauvés et partent au ciel. Voilà les intérêts du ciel. C'est tout. Il ne veut pas forcément que votre nation, vous ayez du goudron partout, vous soyez riche et que tout le monde ait de l'argent. Pour Dieu, à quoi servirait-il un homme de gain le monde entier s'il perdait son âme? Quel que soit le bien que vous avez, Dieu s'en fout. Si ton âme n'est pas sauvée, tout ce que tu peux avoir pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Et les intérêts du royaume sont fonction de cela. Dieu veut que les gens soient sauvés, non pas qu'une nation forcément crie de joie. Parce qu'elle a beaucoup d'argent et des milliards. Il y a des peuples qui sont prospères mais qui ne connaissent pas du tout Dieu. Sentons et vivons les intérêts de Dieu. Alléluia. Nous, on ne veut pas que la crise arrive, on veut que ça s'arrête. Mais il faut dire qu'on a eu nos meilleurs résultats dans nos croisades pendant la période des crises, lorsqu'on est parti dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a été intéressant pour Dieu que les rebelles soient encore dans le nord. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça a été intéressant pour Dieu. Moi, j'ai pris pour qu'ils partent. Parce que ça ne m'arrange pas. Je crois qu'un monde de nos parties. Amen. Les intérêts du royaume de Dieu peuvent à un moment donné coïncider avec ceux de la nation, ceux par exemple du chef de l'État, ou bien ça peut coïncider. Pendant ça, on prie pour lui, pour qu'il rentre là-dedans. Personnellement, c'est ce que moi je fais. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur t'a dit autre chose, mais moi, pour le moment, ce que je sais, c'est que je prie pour ne pas qu'il y ait un coup d'État. Je prie pour ça. Je prie pour que les choses se calment, pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, pour qu'on puisse proclamer la parole de Dieu, pas pour que je puisse m'asseoir tranquillement à la maison, dormir dans le luxe. Non. Donc quitte ta patrie, dis à ton voisin, quitte ta patrie. Amen. Mais si quelqu'un a une tendance de la rébellion, là c'est mauvais. Mm-hmm. Là c'est mauvais parce que Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas la rébellion. Il faut que vous disiez, si quelqu'un, son cœur est comme ça, Dieu n'aime pas la rébellion. Il faut respecter tout le temps les autorités qui sont là. Que ça te plaise, ça te plaise pas. C'est comme ça, ça y est. Ça fait partie des lois du royaume aussi. Amen. Quitter ta patrie, c'est aussi quitter, c'est un type de mentalité. La mentalité du monde. Terak, c'est le père. Quitter ta patrie, c'est aussi quitter la mentalité du monde. On l'a expliqué. La mentalité du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous voyez? Vous ne pourrez pas rentrer dans vos promesses si vous êtes attaché émotionnellement, n'est-ce pas, au bien de la terre. Vous ne pouvez pas. Il faut perdre pour gagner. Vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas vos promesses si vous aimez les maisons. Vous aimez les belles maisons, non? Si tu aimes belle maison, Dieu ne va pas te donner une belle maison. Le jour où ton cœur sera détaché, quand tu vas perdre les biens que tu as, Dieu peut te donner. C'est dans le principe. C'est-à-dire, ce à quoi tu es attaché émotionnellement, tu ne l'auras pas. Qu'est-ce que le monde nous propose comme mentalité? La gloire, les belles voitures, les bons plaisirs, les belles choses. Ça, c'est le Terak. Tant que vous êtes dans Terak, vous n'allez pas arriver à Canaan. Vous êtes bloqué à Charan. Vous allez être en retard sur le chemin de votre destinée. Or, Dieu prévoit bien sûr de vous donner plusieurs maisons. Dieu prévoit de vous donner plusieurs voitures parce qu'il veut que vous mettez vos voitures à la disposition de l'œuvre de Dieu. Mais ton cœur aime les voitures, pas à cause du royaume. C'est un prétexte, quoi. Et tu dis, j'aime la voiture. Que Dieu me donne ça pour la gloire de son nom. Oh, c'est pour ta propre gloire. Toi-même, tu sais ça. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Car Dieu nous connaît. Abraham dit, j'ai quitté. Il dit, mon fils, tu n'as pas encore quitté. Terak est là. Il sait. On ne peut pas blaguer Dieu. Il y en a qui veut blaguer. Il dit, je t'assure, Seigneur. Là, j'ai changé. C'est sincère. C'est sincère. Ça ne m'intéresse plus du tout. Maintenant, la petite voiture que tu as là, Dieu fait, elle commence à tomber en panne. Elle commence à avoir des problèmes. Ah, Seigneur. C'est comment ça qu'on a fait? Maintenant, on veut faire grève. On veut faire une grève. Vous voyez, les gens qui sont détachés, c'est de la trempe de Job. Dieu lui a donné beaucoup de biens. Dieu vient et reprend cela en une journée. Job s'arrête gaillardement, tranquillement, il dit, l'Éternel l'a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Cet homme était détaché émotionnellement de tous les biens qu'il avait, quels qu'ils soient, de sorte que leur perte n'a eu aucune influence sur sa vie d'adoration. S'il existe un bien sur la terre dont la perte va te faire pleurer la nuit, c'est que tu n'as pas encore bien quitté. Amen. Dis amen avec moi. Amen. 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 C'est pourquoi nous tardons. La plupart d'entre nous sommes bloqués à Charan. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a attendu la mort de Terak. Ce qui fait qu'Abraham a eu jusqu'à 75 ans. Or, il était arrivé à Charan beaucoup plus jeune. Dieu n'est pas pressé. Je vous assure, Dieu n'est pas pressé. Vous connaissez Dieu? Pour entrer dans ta promesse, il va attendre 40 ans. Tant que ce n'est pas fini, lui, il est soit pour lui. Frère, il dit pas, non, il va avoir pitié. Dans la suite des temps, il va avoir pitié. Il n'aura pas pitié. Reste dans la foi. Si tu n'as pas quitté Terak, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais tu ne vas rien avoir. Parce que le plus important pour Dieu, c'est le ciel. Si tu es parti au paradis, il est content. Mais tu dis, je n'ai rien. La terre va finir. Tu vas finir dans ta même situation. Sans voir ce qu'on t'a promis. Dieu dit à Abraham, quitte la Mésopotamie, je te promets de grandes choses. S'il restait à Charan, il n'allait rien voir. Là, arrivé au ciel, Dieu, tu m'as dit, les prophètes t'ont prophétisé, j'allais partir, ainsi de suite. Mais rien ne s'est produit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quitte d'abord pour pouvoir posséder. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, quitte pour posséder. Alléluia. Tes réactions sont les choses du monde. La mentalité du monde, la façon de penser du monde. Le père, on dit quitte ta patrie, quitte Terak. La façon de penser du monde, le raisonnement du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Les biens, ça peut être si ton cœur est rattaché à l'argent. Si tu aimes l'argent, Dieu sait que tu aimes l'argent. Si tu aimes l'argent, Dieu ne te donnera pas d'argent, je t'assure. Dieu va te donner juste de quoi vivre, manger et boire. Mais tu vas voir que tes biens ne font que se réduire au fur et à mesure. Parce qu'il ne va pas vouloir. Il va pas, Dieu, tu sais, Dieu, il est patient, il est quand même bon. Il ne va pas te massacrer du jour au lendemain. Mais tu vas voir que tu fais des affaires, ça réduit comme ça. Petit à petit, il veut te faire comprendre. Il est en train de tuer ton Terak. Parce que Terak est mort pour qu'Abraham puisse partir. Ton Terak est en train de mourir. C'est pourquoi tu es en train de tout perdre. Arrête de le conserver longtemps, dit Terak. Hein? Laissez Terak, si Abraham n'était pas parti, peut-être que Terak allait vivre encore 300 ans. Mais il a fallu que Terak meure. Et j'ai dit, si nous sommes rattachés, si l'Église n'arrive pas à se départir du sentiment patriotique, les chrétiens n'arrivent pas à le faire, ils ne pourront pas intercéder justement pour la Côte d'Ivoire et nous risquons d'entrer dans le chaos. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire constitue pour nous un Terak, Dieu va le tuer. Nous pouvons avoir une attitude qui peut sauver cette nation si nous sommes détachés pour écouter attentivement la voix de Dieu, pour savoir quel est son plan, qu'est-ce qu'il a prévu, et puis commencer à intercéder. Mais si on est passionné, comment on peut prier pour le pays? On prie comme les païens prient, on agit comme ils agissent. On tue ceux qu'ils ont envie de tuer. Les païens veulent. Le jour on a dit que Chirac était mort, tous les jours on crie. Nous, les chrétiens aussi, on crie dedans. Ils ont dit c'est leur prière qui était aussi. Après, on a dit que non, c'est fou. Ouais, c'est même pas la prière du royaume, parce que le royaume est serein. Tu pries, mais Dieu ne t'a même pas dit que c'était pas vrai. Donc quand les gens ont sauté à Yopougon, il y a des frères qui ont dit il paraît que. Il y a plein de frères. On dit Chirac est mort. Chirac est mort. Oh Dieu puissant! Il nous a exaucés. Oh! Mais c'est même pas Dieu, c'est ta chair. Dieu n'est pas dedans. La preuve, c'est que tu t'es trompé. Détache-toi pour voir les choses de Dieu afin de pouvoir mieux intercéder. Quitte Terak. Alléluia. Qui est fatigué par Terak? Oh, Terak, mais c'est pas la peine. Dis le vieux, je t'aime bien, hein? Mais franchement, vous me laissez déjà partir maintenant. Abraham s'appuyait sur Terak. Il avait toujours vécu avec Terak. Il comptait sur lui. Ça peut être ton bien, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Ici, il ne s'agit pas de quitter le péché. Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses biens, sa famille. Rien de ce qui est cité n'est un péché. Rien de ce qui est cité n'est un péché. Tout sont des possessions qui nous sont utiles, des choses que nous aimons, et toutes sont des choses auxquelles, ce qu'il cite en Marc chapitre 10, verset 29, sont des choses auxquelles nous sommes rattachés émotionnellement. Amen. Alors, lorsque Terak va mourir, Abraham, Dieu va encore parler à Abraham. Il dit, mon petit, je t'ai dit de quitter. Je t'ai parlé, ça fait des années que tu es acharné. Je dis, il faut quitter. Tu dis, j'aime Terak. Maintenant, Terak est mort. Je suis bon et miséricordieux. Va encore vers la terre promise. Abraham se lève, mais il a 75 ans. Parce qu'il n'est pas arrivé à Canaan depuis tant d'années. Sarah est restée stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'il n'est pas au lieu de la bénédiction. Alors Abraham arrive à Charan. Mais quand Abraham quitte Charan, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'est pas bien délivré. On dit de quitter sa famille, mais ça va avec Lot. Bon là, c'est une petite famille. C'est-à-dire, Terak, il dépend de Terak, c'est son père. Mais Lot dépend de lui. Lot est son fils, est son neveu. Mais c'est quand même la famille. Attachement émotionnel. Il dit, bon, le vieux est mort, mais Lot, ça peut aller. Effectivement, Dieu lui reparle encore à la mort de Terak. Mais Lot va l'empêcher de voir et de saisir profondément la promesse de Dieu pour lui. Parce que je vous avais dit que, étymologiquement, le nom Terak veut dire retard. Hein? Quand je faisais l'enseignement, je n'avais pas vu le sens. Quand je regarde dans ma Bible online, j'ai vu les mots hébreux. Je dis, mais Terak me veut dire quoi? Quand j'ai vu que ça veut dire retard, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, Dieu, tu es trop fort. Et je regarde le sens du mot Lot. Le mot Lot veut dire voile. C'est un voile. Le nom Lot, ça veut dire voile. Et donc Dieu, quand toi tu donnes le nom, tout est stratégique. Alors Seigneur, mais tu es fort. Lot s'appelle le voile. Tant que Lot était dans la vie d'Abraham, et vous allez voir, Abraham avait une vision floue de sa destinée. Il savait à peu près que Dieu voulait le bénir, mais il ne savait pas comment. Et c'était confus. Lorsque Lot va partir, on va aller tout à l'heure, vous allez voir que la promesse est devenue beaucoup plus précise, beaucoup plus claire. Et Abraham a commencé effectivement à posséder la terre. Mais quand Lot était avec lui, il est rentré dans la promesse, mais il n'est pas resté. Il a commencé à la toucher, mais il n'a pas saisi. Alléluia. Nous revenons dans le livre de Genèse. Et nous allons lire la suite de l'histoire d'Abraham. Je vous avais dit la dernière fois donc que j'allais expliquer, quitter ta patrie. Quitter ta patrie, c'est tirer, quitter Terak. Quitte ta famille, c'est quitter le Lot. Amen. Quitte ta famille, c'est le quitter Lot. Genèse, chapitre 12, toujours, à partir du verset 1, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, je viens de lire Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Je suis maintenant au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Je commente un peu à partir du verset 10. Après ça, quand vous allez au verset 10, la Bible dit qu'il y a eu famine. La famine va entraîner Abraham à aller en Égypte. Il va se retrouver dans une situation où il va mentir. Mais Dieu étant avec lui, Dieu va l'amener à sortir de cette situation. Et Abraham va revenir là où il était parti. Là, on arrive au chapitre 13, au verset 1. Il est dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua une deuxième fois le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alléluia. Nous sautons. Parlez au verset 14, chapitre 13, verset 14, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Vous voyez que la promesse manifestée à Abraham après le départ de Lot est beaucoup plus précise et beaucoup plus claire que celle qu'il recevait depuis le début. Lot constituait pour lui un voile. Dans votre vie, il vous sera très difficile quelquefois de discerner quel est le Lot. Généralement, en fait, si vous lisez bien le passage, tu as plutôt l'impression que c'est Lot qui le suivait. D'abord, il a dit Abraham parti, et puis Lot avec. Dans la première fois, quand il parlait de Térak, on a dit Térak a pris Abraham et puis Lot. Ici, Abraham est parti, comme l'Éternel lui avait dit, et puis Lot, qui était aussi là, dit, bon, moi je viens avec toi. Et vous êtes quelquefois très difficile de distinguer votre Lot, mais le Lot est un voile sur vos yeux qui vous empêche d'avoir la vision exacte de ce que Dieu va faire avec vous. C'est un voile. Et ce voile-là, tant qu'il est là, vous ne pouvez pas saisir la promesse. Ce voile va vous faire douter. Ce voile va vous faire douter. Ce voile va voiler la vision de Dieu pour vous et la voix de Dieu pour vous, la révélation de Dieu pour vous. Tant que Lot était là, Abraham a continué, n'a fait que marcher dans la terre promise sans commencer à la prendre en possession. Amen. Tant que Lot sera là, vous tournerez autour du pot. Vous sentez que c'est à peu près ici que Dieu veut vous bénir. Vous commencez, vous tâtonnez. Comme Abraham, il arrive à la terre promise. Lot est là. Un peu. Il retourne en Égypte. Il recherche quelque chose. Après, il revient. Il ne sait pas vraiment où il va. Il est en train de tourner sans directive particulière. Dans la deuxième parole de bénédiction, Dieu lui dit, traverse le pays de long en large parce que je te le donne. Donc, Abraham va commencer à faire une visite de son territoire en possession. Or, la première fois, il a fait jusque traverser. Il a dit, c'est sûrement la terre là où Dieu va me bénir. Voilà ce que je vais faire. Il a bâti des hôtels, mais à cause du voile, il n'a pas pu prendre possession de la terre. Le voile nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on prend possession des choses de Dieu? Comment est-ce qu'on prend possession? Comment on fait tomber le voile? Vous allez remarquer que Dieu va amener Abraham à beaucoup prier. C'est le symbole de l'hôtel qu'il a bâti. Abraham a bâti deux hôtels lorsqu'il a traversé la première fois la terre promise. En quelque sorte, Dieu voulait lui dire, prie. Reste en communion avec moi pour pouvoir saisir ton bien. Mais Abraham n'est pas resté au lieu de l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'autel, il a béni le Seigneur, mais il n'est pas resté au lieu de l'autel. Autrement dit, pour faire un peu d'analogie à ce que nous prêchons, il n'est pas demeuré dans la prière. Il n'est pas demeuré dans le lieu de la communion avec Dieu. Et parce qu'il n'a pas gardé sa communion avec Dieu, son intimité avec Dieu, il n'est pas resté persévérant. Il va se retrouver en Égypte. C'est-à-dire dans des comportements de compromission. Sans rétrograder, mais il y a un comportement de compromission. Après cela, il a dit qu'Abraham, après les problèmes qu'il a eu en Égypte, il va revenir vers la terre promise. Il va à nouveau aller au niveau de l'autel. Et c'est lorsqu'il va invoquer, vous avez bien suivi, donc Genèse chapitre 12, on est vers la fin, lorsqu'il va invoquer le Seigneur, que les bergers de Lot, et puis ces bergers vont commencer à faire parler. Et Lot va décider de partir. La prière a été la base, la communion avec Dieu a été la base, ce qui a permis de faire tomber le voile, de faire tomber Lot. Et dès que Lot est parti, Dieu lui a parlé. Amen. Alléluia. Alors, de quoi est constitué ce voile qui nous empêche d'entendre la parole de Dieu? Donc, suivez avec, bien avec moi. Première parole initiale de Dieu, mais qui ne produit pas la possession. La Bible dit, en ce qui concerne la possession dans le livre de Jacques, il faut que vous sachiez une chose, que celui qui doute ne peut pas obtenir une chose, ce qu'il demande à Dieu. Dieu exauce ceux qui croient. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est la foi qui vous permet de prendre possession des choses de Dieu. Sans la foi, vous n'obtiendrez rien de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu sache quoi? Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Mon juste vivra par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas prendre les choses de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous n'obtiendrez pas les promesses. Regardez Hébreux chapitre 11. Lisez-le attentivement qui définit la foi. Nous n'aurons pas le temps de le lire. Dans ce passage-là, Dieu explique, il dit, voyez, ces femmes-là, elles ont ressuscité, elles ont pu ressusciter certains de leurs proches parce qu'elles avaient la foi. C'est par la foi que l'offrande d'Abel a été supérieure à l'offrande de Caïn. C'est par la foi que Moïse a agi. C'est par la foi que Abraham a agi. C'est par la foi que toutes ces personnes sont rentrées en possession de leurs promesses. Amen. Alléluia. Le voile qui est constitué, qui s'appelle Lot, vous empêche d'entrer, parce que vous n'avez pas la foi, d'entrer en possession de vos promesses. En quoi est-ce qu'il constitue un voile? Un voile à la voix de Dieu. Il faut savoir d'où vient la foi. La Bible dit que la foi... Est-ce que vous me suivez? Ça peut aller? Ok, là on parle de Lot. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. La foi n'est pas produite au hasard. La foi, selon Hébreux chapitre 11, est la ferme assurance et non la ferme persuasion des choses qu'on espère. Ça veut dire, c'est pas quand je m'assois, Dieu dit, tu vas avoir un enfant. Ton cœur doute un peu, hein. Mais tu dis, je possède, mon enfant vient. Ça, tu veux te persuader que tu vas rentrer dans ta promesse. Vous voyez, est-ce que vous faites la différence dans vos cœurs? Quand vous vous persuadez qu'une chose va arriver, Dieu peut te montrer, par exemple, quand je reviens toujours sur le match de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a perdu 3-2. Quand j'ai vu ça en songe deux jours avant, la Côte d'Ivoire a perdu 3-2. Exactement le scénario. Mais je ne veux pas croire. Donc, je veux me persuader que Dieu ne va pas faire ça à la Côte d'Ivoire, un pays qui souffre tellement, une victoire vraiment, ça va le faire tellement de bien. Donc, je veux me persuader, ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas la ferme persuasion. La foi, c'est bien en fait de crier, oh, je dis, je prends. Il est net ainsi. La Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. J'ai vu des frères qui ont fait ce truc. Ils sont partis sur les terrains, ils ont foulé, on les a chassés. Ils ne sont plus jamais revenus. Je prends possession. Ils arrivent, ils rentrent dans un endroit. Ici, c'est pour moi. Le Seigneur déclare dans tout endroit que foulera. C'est pas comme ça. La Bible dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Plusieurs chrétiens sont levés, ce qui est une bonne chose. Allez sur des paralytiques, des aveugles. J'ai dit, criez, vois. L'aveugle est resté aveugle, le paralytique est resté paralytique. Et leur foi a pris un coup. En fait, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas encore la foi. Parce que quand vous avez la foi, ça marche toujours. Le frère dit, mais je te dis que j'étais convaincu qu'il allait marcher. J'étais convaincu que la maison là, j'allais la prendre. J'étais convaincu que ce boulot était pour moi. J'étais convaincu, pasteur. En fait, c'est une persuasion, mais ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas la ferme assurance. C'est une persuasion. Je vais te montrer la différence tout à l'heure. Avec celle-là, tu ne peux pas obtenir. Tu te persuades, tu veux te convaincre que les choses vont aller comme tu le souhaites. Cette année, je me marie. Rien à faire. Au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où il a arrêté, je l'amène. Au nom de Jésus, je lis les obstacles. Faut bien tout ce que tu veux. Il vient. Si tu n'as pas la foi, ce que tu dis là n'arrivera pas. Amen. C'est quoi la foi? Il faut bien comprendre la définition que Dieu donne à la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Si vous lisez comme ça, vous n'allez pas bien comprendre. Il faut quelquefois aller un peu plus en profondeur dans le grec. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit. En fait, dans le grec, on se rend compte qu'il y a deux mots pour parole de Dieu. Le mot parole de Dieu émane de deux choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle, la parole de Dieu s'appelle logos. Et le deuxième mot qui parle de la parole de Dieu s'appelle rhéma. Ce n'est pas la même chose, ils n'ont pas la même définition. Le logos, c'est la parole écrite, c'est ce que nous savons, ce que nous lisons tous les jours. Là-dedans, le logos est rempli de des milliers de promesses pour nous. Crois en moi, tu vas avoir ceci, je te bénirai, je rendrai ton nom prospère, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en possession. Tout ça, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. La Bible dit beaucoup de choses qui sont des promesses pour nous, et c'est vrai. Amen. Le logos est vrai. Je n'ai jamais dit qu'il est faux. Mais ce qui vous amène à prendre la foi, ce qui crée en vous la foi, ce n'est pas la lecture du logos. Même quand vous vous convertissez, regardez, même la conversion vient d'un rhéma. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des gens, notre conversion vient d'un rhéma. Quand vous vous donnez à Jésus, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. La foi que tu as pour te convertir, ça ne vient pas du logos, ça vient du rhéma. Ça veut dire quoi? Pendant de longues années, tu peux entendre tous les versets de la Bible, mais ça ne produit pas en toi la conversion. Un jour, tu arrives à un programme, et puis il y a un pasteur qui dit un mot, quelque chose que tu as entendu 10 000 fois, et ce jour-là, ce mot rentre dans ton cœur, et tu dis, oh Dieu, moi je marche avec Jésus. Ça produit en toi la foi du salut. Ce mot que tu as entendu, c'est ce qu'on appelle le rhéma. Ça vient de la parole de Dieu, mais c'est une parole révélée, c'est une révélation dans ton cœur. C'est quelque chose qui te parle, et tu sais que le message t'est adressé par rapport à une situation donnée. C'est ce rhéma-là qui produit la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on a entendu, le rhéma, pas le logos. La foi vient quand on a entendu le rhéma, pas quand on a entendu le logos. Donc c'est cette foi-là qui vient du rhéma, la révélation de Dieu, qui va faire que tu vas obtenir les promesses qui étaient déjà mentionnées dans le logos. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Voilà. Comme ça, il y a des frères qui sont morts sans avoir compris la parole de Dieu. Il a dit que Dieu a dit, Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez. Je crois. Et un frère s'est levé pour aller marcher sur les eaux. Il est mort. Parce que pour lui, ne pas marcher sur les eaux, c'est ne pas croire dans ce que Dieu a dit. Et il s'est levé, il s'est persuadé que, étant donné que Christ a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, si vous croyez, il a cru. Mais il n'a pas cru, en fait, il s'est persuadé. Et il ne veut pas entendre. Il dit, non, je veux persuader. Quand tu dis, frère, ça peut ne pas être Dieu. Non, arrière de moi, Satan, arrière. Il veut remplir sa parole de ce qu'il a envie d'entendre. Et il est parti marcher sur les eaux et on l'a repêché mort. Heureusement que beaucoup parmi nous sont assez prudents. Donc on essaie notre foi logos sur des petites situations. Moi, qu'on peut gérer quoi. On prie pour le malade, il n'est pas guéri. On dit, bon, mon frère, tu sais, sur le plan de Dieu, au temps opportun, le Seigneur va te guérir. On fait des proclamations de logos sur lui. Je te dis, le Seigneur dit que tu vas guérir. Mais on n'a pas reçu de rhéma. Je vous dis, frère, quand il y a une situation et que vous recevez ce qu'on appelle le rhéma de Dieu, je suis convaincu que vous tous, vous avez une façon de dire ce que c'est que le rhéma. Quand le rhéma arrive, vous êtes serein. Et vous savez que le miracle, quel que soit ce que les gens disent, va se produire. C'est une foi posée. Tout le monde peut paniquer. Mais vous entendez une petite voix. Ça peut être une conviction. Ça peut être une voix. Ça peut être une révélation la nuit pendant que vous priez. Vous pouvez la recevoir quand vous avez entendu la parole. Mais quand elle arrive, vous la sentez. Elle est très différente. Et puis vous êtes tranquille. Tout le monde dit, ce malade qu'elle a va mourir. Et puis vous lui dites, non, il ne mourra pas. Tu ne sais même pas sur quoi tu t'appuies. Mais tu as senti qu'il ne mourra pas. Et puis tu le déclares. Il va s'approcher de la mort, mais il va sortir. Parce que toi, tu as reçu le rhéma. Okay. Mais quand tu n'as pas le rhéma, tu vas venir. Je refuse qu'il meure. Je refuse. Seigneur, tu as dit. Mes parents, tout ça là. Ça ne peut pas le ressusciter. Parce que tu n'as pas la foi. Car la foi vient du rhéma et non de ta proclamation du logos. Si tu as compris, il faut claquer le doigt. Si tu n'as pas compris, je vais prendre. On s'est compris, non? Amen. Qui a une fois senti un rhéma dans sa vie? Je crois que ça arrive à presque tous les chrétiens. Ça ne vient pas tout le temps. Mais ça vient dans des situations données. Où tout le monde sait que ça ne peut pas marcher. Toi, tu sais que ça peut avoir. Tu passes un examen, par exemple, tu as mal travaillé. En fait, tu te dis, mais tu es serein. Tu dis, je sais que j'aurai. On dit, mais comment tu as... Tu dis, je sais. Je te dis que je sais. Tu as reçu un rhéma. Et que ça vient, on dit, non. Vraiment, tu as la foi. Hein? Mais tu sens que tu n'as pas fait d'effort. Oh, le logos, tu fais un effort. Tu concentres ton cœur. Faut pas le doute va venir. Faut pas le doute. Ah, c'est le logo. Quand le logo arrive là, il a dit, le doute veut venir, puis tu le chasses. Arrière de moi. Ça là, tu es en train d'aller sur le logos. Quand le réma vient, on ne parle pas comme ça. On est serein. Quelquefois, on a même envie de prier. On sait que c'est OK. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui reçoit souvent des rémas? Si tu reçois souvent des rémas, vous voyez. Voilà. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est qu'un enfant puisse recevoir le maximum possible de rémas. Mais l'autre est celui qui bloque justement le rémas. Voilà en fait le rôle de l'autre. C'est un voile. Comment? Voilà, souvent il falsifie. Comme le frère Landry, comment dirais-je, Constant le dit. Donc, l'autre vous bloque ses rémas. C'est-à-dire, c'est un voile. Il vous empêche de percevoir les mots que le Seigneur dit qui vont arriver dans votre cœur pour saisir une fois pour toutes la promesse. Donc, toutes les promesses que Dieu vous a faites sont pour vous logos. C'est-à-dire, je te bénirai. Abraham, avant, ce que Dieu l'a dit en Genèse 12, 1, c'était pas un réma, c'était un logos. Voilà, ainsi par l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la terre en possession. Mais Abraham n'a pas pu prendre la possession. Amen. Vous savez, Abraham savait qu'il allait avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est quand qu'il allait avoir un enfant. Mais c'est quand il a reçu son réma. Quand les anges l'ont visité. Quand ils l'ont visité avec Jésus, c'est là qu'ils lui ont dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas avoir un enfant. Depuis cette date, Abraham est resté serein. Il savait que c'était fait. Quand le réma arrive, vous n'avez même plus besoin de prier. Quand on te dit, non, si je prie, ça vient en contradiction de mon cœur. Parce que je sais que j'ai. Mais la chose n'est pas encore dans ta main. Mais tu le dis. Et puis, tu as même envie de t'appeler par ce que Dieu t'appelle. Tu sens que c'est fini. Vous n'avez plus besoin de prier quand le réma est arrivé. Mais tant que vous avez seulement que le logos, priez jusqu'à ce que vous ayez le réma. Amen. C'est pourquoi je parle de l'autel de la prière. Le réma se provoque. Il se provoque. Si vous restez à dormir, vous aurez des rémas rares. Tellement rares et vous n'aurez rien. Un réma annuel, c'est dangereux. Ou bien un réma chaque 2 ans. Oh frère, tu vas vivre dans la médiocrité, tu n'auras rien, ta vie sera médiocre, tu seras déçu de Dieu. Tu viens à l'église tout le temps, mais toi tu as un réma par an. C'est quelle affaire ça? Aucun miracle dans ta vie, aucun prodige, aucune situation qui change. Parce que sans la foi, on ne peut rien obtenir. Rien, ta vie est monotone, tu n'as aucun réma. Un réma par an. C'est décevant. Il faut te débrouiller pour au moins 30, 40 réma par an. 100, si tu as un réma par jour, mais là c'est puissant. Dieu veut donner des réma. C'est pourquoi il a crié sur les apôtres. Il dit, mais pourquoi on n'est pas pu chasser ce démon? Il dit, Seigneur, pourquoi on n'entend pas pu le chasser? Il dit, parce que vous n'avez pas la foi. Mais comment parle ce démon? Par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que la prière et le jeûne déclenchent des réma. Et les apôtres avaient le logos qui dit, vous chasserez les démons. Mais ils n'ont pas eu le réma pour chasser ce démon-là spécifiquement. Ils avaient les rémas pour chasser les autres petits démons. Mais ils n'avaient pas de rémas pour chasser ce gros démon. Alléluia. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut donc provoquer le réma. Et le réma, vous commencez à recevoir vos rémas clairement lorsque vous faites disparaître l'autre. Et vous ne faites le faire disparaître l'autre que dans une vie constante de prière. Restez dans la présence de Dieu. Soyez persévérants et croyez. Alléluia. Alléluia. Le réma va changer. Le réma va vous donner d'entrée. La parole de Dieu va vous donner d'entrée en possession de vos promesses. Vous déclenchez le réma par vos vies de prière. Vous déclenchez le réma parce que vous connaissez aussi le logos. Le logos est très important. Le logos est très important. Si vous ne lisez pas le logos, vous produirez très rarement des rémas. C'est pourquoi il faut méditer constamment la parole de Dieu jour et nuit. La lire, l'étudier, avoir une vie de prière régulière, constante. Abraham est arrivé devant l'autel encore. Après avoir vu une compromission en Égypte, il repart vers l'autel. Il s'arrête devant l'autel et il invoque son Dieu. Il invoque son Dieu. Et voyant le voile, Dieu va créer des histoires entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils vont se disputer. Lot va partir. Dès cet instant, le voile est tombé. Et Dieu maintenant va lui donner des précisions. Il dit, tu vois, la terre où tu es là, c'est là que je te donne en possession. Effectivement. Amen. Va d'un bout à l'autre, analyse là, c'est là. Et Abraham va s'installer
depuis ce temps dans la terre promise. Amen. Il a été donc ainsi disposé maintenant à recevoir la suite de la promesse, c'est-à-dire la fécondité. Amen. Abraham va passer encore d'autres épreuves que nous traiterons dans d'autres enseignements. Donc, une fois dans la terre promise, là où Dieu a prévu de me bénir, parce que la Bible dit, je te bénirai au lieu que j'ai choisi. Dieu ne bénit pas n'importe où. Donc, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille ou la maison de ton père, alléluia, et va dans le territoire que je te montrerai. Va dans cette nouvelle patrie qui est la patrie du ciel, celle d'où tu viens. N'aie plus les regards sur les choses de ce monde. Il dit, Colossiens chapitre 3, verset 1, cherchez les choses d'en haut. Frères, aspirez aux choses d'en haut. Coupez avec les regards sur la terre. Arrêtez la convoitise des yeux. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur. Recherchez les choses d'en haut. Les intérêts de Dieu. Coupez avec tout ce que vos cœurs, tout ce à quoi vos cœurs sont attachés émotionnellement. Abandonnez-les. Tant qu'elles choses-là seront dans vos vies, vous ne pourrez pas rentrer, vous ne pourrez pas être au lieu de votre bénédiction. Alléluia. Abandonnez ces choses. Aspirez aux choses d'en haut. Qu'est-ce que sont les choses d'en haut? Il y a le caractère, la façon de se comporter. Le Seigneur dit dans le livre de Jacques chapitre 4, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Il dit parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. Alors on peut lui demander, mais qu'est-ce que c'est que nos propres convoitises? Il explique en disant, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? En fait, leur explique, Dieu ne vous exauce pas quand vous êtes amis du monde. Dieu ne vous répond pas quand vous êtes amis du monde. Et même encore là, combien de fois sera-t-il difficile pour vous de recevoir des rémas? Coupez avec le monde. Arrêtez les choses du monde, les convoitises du monde. Il n'y a rien là-dedans. Courir derrière les belles voitures, derrière les belles choses, derrière les belles maisons, ce n'est pas ça qui a de la valeur. Ce n'est pas ça qui a de l'importance. Ne cherchez pas les biens que vous aurez sur la terre. Cherchez ce qui vous est réservé dans le ciel, d'abord. Ayez votre attention là-dessus. Soyez connectés avec Dieu. Coupez pour que Dieu puisse vous donner. Quittez afin que vous ayez ce qui vous est promis ici-bas. Si vous ne quittez pas, vous n'obtiendrez rien. Et Dieu est très patient là-dessus. Il va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour manger, pour vivre, pour ne pas que vous mouriez de faim. Mais vous ne verrez pas la gloire qui vous était promise. Quittez. Abandonnez ces choses. Changez de façon de voir. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. Car si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Abandonnez-les. Coupez avec ces choses. Regardez vos attachements émotionnels et décidez d'arrêter cela. Faites-le pour le royaume de Dieu et pour la proclamation de la bonne nouvelle. Et vous aurez ce que vous avez perdu multiplié par 100. Faites-le. Allez sur la terre que Dieu a prévue pour vous. Ayez une vie d'intimité avec le Seigneur. Soyez persévérant dans la foi. Ne vous découragez pas. Même si vous êtes comme Abraham, quelquefois vous tombez dans la vie de compromission. Quelquefois vous tombez dans le doute. Ce n'est pas grave. Relevez-vous. Abraham était un homme comme nous. Il a faibli aussi, mais il s'est relevé. Et Dieu le nomme le Père de la foi. Dieu peut faire la même chose pour toi. Reste en communion avec Dieu. Fais tomber le voile qui est sur tes yeux. Dans une vie de prière, tu vas commencer à recevoir des rémas. Et tu entreras en possession de tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Baissons les têtes et prions le Seigneur.
Nous espérons que ce message contribuera à votre élévation spirituelle et fera de vous des chrétiens victorieux. Nous vous invitons à visiter le site du ministère Message de Vie sur www.mdvie.org. Que Dieu vous bénisse.